Alors le thème c'est les frères musulmans. En tout cas une chose est sûre c'est que nous, moi jeune issu de banlieue et qui est aussi de confession musulmane, j'essaye de convertir personne, vous voyez. Je suis là, je prône le vivre ensemble et je traîne avec n'importe quelle personne.
Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour deux heures de Gai Savoir, même si certains jours, il faut savoir se retrousser les manches et sacrifier la gaieté sur l'autel du savoir. C'est le cas cet après-midi suite à l'événement qui a bien failli endeuiller notre week-end, la découverte dimanche midi de notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière qui gisait inanimé sur sa descente de lit en peau de lion, avec entre les mains un exemplaire du JDD. Autour de lui, d'autres articles de presse issus de publications les plus sérieuses du moment, comme Valeurs Actuelles, Causeur ou le JD News. De toute façon, il était abonné à tout, nous dira sa femme dans un sanglot. Sur le mur, cette inscription réalisée à la graisse de porc, « Les frères musulmans m'ont tué ». Oui, transporté d'urgence à l'hôpital américain de Neuilly, Cyril expliquera qu'il avait fait un choc sceptique à la lecture de tous ses articles sur l'entrisme des frères musulmans. « On n'est plus chez nous », déclara-t-il en guise de bonjour hier matin en arrivant à Inter. Avec Manon et Quentin, on s'est regardé et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on mette les choses à plat, ne serait-ce que pour la santé mentale de Cyril. Voilà pourquoi cet après-midi, on va se poser la question. Pourquoi ce rapport sur les frères musulmans, pourquoi maintenant, qui sont, c'est vrai, les frères musulmans, quelle est leur influence réelle sur la société française. Zoom Zoom Zen, 100% déconne, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Un mensonge dans ce que vous venez de dire, Quentin n'est jamais là le matin.
Oui, c'est vrai.
Cette rectification est affreuse pour vous, Cyril. Bonjour Hakim El Karoui.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Inter cet après-midi. Hakim, vous êtes fondateur du cabinet de conseil Volantia, président du club 21e siècle et expert associé du think tank Terra Nova. Vous êtes aussi l'auteur de deux rapports pour l'Institut Montaigne qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. Un islam français est possible en 2016 et la fabrique de l'islamisme en 2018. Vous avez aussi publié l'islam, une religion française, ça c'est chez Gallimard. Vous êtes donc l'homme de la situation pour nous éclairer sur ce rapport du gouvernement au sujet des frères musulmans. Vous avez d'ailleurs été sollicité pour fournir votre expertise dans le cadre de ce rapport. Alors, ce rapport est-il important pour lutter contre l'entrisme islamiste qui menace la société française ou bien est-il un argument de com' pour Gérald Darmanin qu'il a commandé lorsqu'il était ministre de l'Intérieur? La vérité est-elle entre les deux? Pour lui, la vérité, c'est que Gérald Darmanin est un opportuniste qui raconte n'importe quoi. Hakim, je vous présente notre responsable des micro-trottoirs, Quentin Lui, depuis hier, trésorier du mouvement TPMC. Touche pas à mon cash. Pour lui, je cite, quelqu'un qui est capable de vouloir supprimer l'argent liquide et quelqu'un qui n'a pas toute sa tête.
C'est vrai.
Voilà votre position.
43% des achats ont été effectués en espèces. 43% des Français ont fait des règlements en espèces en 2024.
Les comptes sont pas clairs déjà.
Si.
Vous annoncez des chiffres comme ça au hasard, j'ai l'impression, Quentin.
Le mec est le roi de l'embrouille.
Vous vérifierez, il y a 40.
Alors, Quentin, le cash c'est un thème polémique, très polémique, mais pas autant que les frères musulmans. Oui, et vous avez enquêté sur le terrain.
Bah, l'actualité, l'actu chaude, hein, pour ne pas dire brûlante, j'ai bien senti en allant enregistrer non loin de la Grande Mosquée de Paris, qui est pourtant un haut lieu du vivre ensemble, que le sujet était pas si évident que ça à aborder. Je vous raconte et je vous fais entendre mes rencontres du jour avant 16h30.
Elle aussi, elle fait de l'entrisme avec ses robes qu'on dirait des djellabas. Ou alors, c'était juste une robe d'euro, marque emblématique de la tendance Quiet Luxury à 10 000 boules avec un foulard. Manon Mariani, aujourd'hui vous revenez sur la folle histoire vécue dernièrement par votre idole, Léna Mafouf.
Exactement, l'une de ses robes portées au Festival de Cannes en a affolé certains qui l'ont accusée de s'habiller à la mode des frères musulmans. Une polémique tuée dans l'œuf par la créatrice de contenu qui ne se laisse plus faire par ces vagues de cyberharcèlement gratuites et racistes.
Vers 16h30, si on n'est pas encore mort de rire, on en mettra une couche avec le Zoom Zoom Test spécial frères musulmans. Ou alors peut-être qu'on se défilera avec un quiz consacré plus aux frères qu'aux musulmans. On verra, on se laisse le temps de la réflexion. Juste avant 17h, c'est Camille Lorente qui aura le plaisir de nous amuser avec notre thématique du jour. Après 17h, restez avec nous car on débriefera toute l'actu du jour avec en fil rouge une enquête sur les derniers jours d'Alain Delon, chez qui c'était dixit le témoignage d'un chauffeur Dallas Empire. Mais d'abord, Hakim El Karoui, question très simple, très frontale pour commencer. Est-ce qu'il faut, oui ou non, avoir peur des frères musulmans?
Je dirais qu'il faut les surveiller. Il faut aussi raison garder.
Voilà. Ah oui, voilà, c'est très clair. Donc, on est un peu entre les deux, quoi. Il ne faut pas nier leur existence et leur influence qui existe. Mais quelque part, il ne faut pas surdramatiser.
Oui, et puis surtout, il ne faut pas se tromper de cible, de problème. Les frères musulmans, ils ont été très puissants en France il y a 20 ans. Vous vous souvenez, Nicolas Sarkozy avait été allé au Bourget pour à la fois faire un pacte avec eux et puis leur dire que quand on prenait une photo d'identité, il fallait que les femmes enlèvent le voile. Et puis surtout, un an après, lors des émeutes en 2005, il leur avait demandé d'envoyer leurs imams pour contrôler les jeunes qui étaient en train de tout casser. Et en fait, c'est le début de leur déclin. Parce que, ils se sont notabilisés. Depuis, ça avait duré pendant 15 ans. Les frères musulmans, c'est partout où ils existent, ce sont des notables. Ce sont des gens qui font de l'action sociale, de l'action caritative, et qui font effectivement de la politique. Dans les pays arabes, ça a été pendant très longtemps la seule opposition, en fait. Ce qui explique d'ailleurs que les dirigeants arabes, en général, ne les aiment pas et qu'ils aient contre eux des méthodes que, franchement, la démocratie réprouve. Mais en France, ils se sont notabilisés, et parce qu'ils se sont notabilisés, d'une certaine manière, en fait, ils se sont marginalisés.
On va y revenir ensemble, vous allez nous expliquer, parce qu'effectivement, rien qu'avec cette introduction, on comprend que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on entend dans les médias. Il est resté une nuit entière en observation à l'hôpital américain de Neuilly, avec 1000 grammes de Temesta en perfusion et interdiction de regarder ces news. Même Christine Kelly, monsieur Lacarrière, oui. Face au traumatisme causé par tous ces articles sur les frères musulmans, Cyril, notre rédac-chef retailliste, avait besoin de repos. Mais même lui s'interroge, les musulmans sont-ils vraiment si dangereux? Quand même, le petit camel qui prend ma tente et m'apporte mes œufs brouillés au saumon est si gentil. Oui, il était temps de tout remettre à plat. Cyril, je ne sais pas, j'en ai entendu parler. Cyril, racontez-nous, les frères musulmans, déjà, d'où ça sort?
C'est en 1928, en Égypte, que ce mouvement voit le jour. On le doit à un jeune instituteur de 22 ans, Hassan El-Banna. Pour faire le lien avec quelqu'un dont les Français ont déjà entendu parler, Hassan El-Banna est le grand-père de Tariq Ramadan. Je reviens en 1928. Pour El-Banna, la mise sur pied de cette organisation répond à deux objectifs. Libérer l'Égypte des Britanniques qui contrôlent le pays depuis 1982 et en prendre le pouvoir en remettant l'islam au cœur de ses valeurs. Très vite, ces frères musulmans deviennent populaires grâce notamment, vous avez commencé à l'évoquer, leurs nombreuses activités caritatives et sociales. Le mouvement se diffuse dans les classes populaires et même la classe moyenne, les populations qui souffrent le plus du joug de la présence anglaise. Si tout est fait pour améliorer la vie des Égyptiens, c'est bien la religion qui est au cœur de ce projet.
Et en 1949, le mouvement subit une bascule.
Oui, avec la mort de son créateur, assassiné alors qu'il se rendait à un rendez-vous avec un représentant du roi, rendez-vous pour certains qui ressemblait à un guet-apens. La mort de Hassan El-Banna va changer le mode de fonctionnement des frères musulmans qui créent une branche armée. Un de ses membres tentera même de tuer Nasser, le président égyptien, le 26 octobre 1954. Tentative ratée, mais qui aura des répercussions, puisque trois jours plus tard, l'organisation est officiellement dissoute par les autorités égyptiennes. Ses membres sont emprisonnés, torturés, voire carrément exilés. Une répression sanglante qui nourrira par la suite une identité victimaire de la part des frères musulmans. Alors, 70 ans plus tard, qui sont-ils? Que pèsent-ils réellement? Comment se sont-ils implantés dans le monde et en France? Quelle est leur vision de l'islam? Sont-ils dangereux? On a commencé à y répondre et c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Alors d'abord, Hakim El-Karoui, un petit point sémantique en préparant cette émission. On s'est posé la question de comment l'appeler. Est-ce qu'on a appelé l'émission frérisme ou frères musulmans? Et on a choisi frères musulmans parce qu'on a découvert qu'en fait, il n'existe pas vraiment de définition académique du frérisme. Pourquoi ça?
Ben, c'est un peu comme, vous savez, il y avait une expression de Gilles Kepel, le djihadisme d'atmosphère. Et puis maintenant, tout est devenu d'atmosphère. Donc il y a le frère musulman d'atmosphère, ça c'est le frérisme. Ça pose un problème effectivement de définition parce qu'on ne sait pas où ça commence et surtout on ne sait pas où ça s'arrête. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui, quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous disent que vous êtes un frériste. Voilà. Donc il vaut mieux parler de frère musulman. Frère musulman, c'est une organisation, c'est extrêmement hiérarchisé, c'est un mélange de partis communistes et puis de grandes loges maçonniques. C'est une organisation créée effectivement dans les années 30, comme on le faisait dans les années 30, le culte du chef, etc. Après, en France, tout ça a considérablement évolué. D'abord, il n'y a jamais eu les Frères musulmans Incorporated à Paris, ça n'existe pas. Il y a eu l'UOIF, qui est devenu musulman de France, qui s'est, comme je vous le disais, notabilisé. Et puis surtout, il y a eu... les dirigeants, ils sont toujours là, ils ont plus de 70 ans.
Ah, ils ne se sont pas renouvelés. Aujourd'hui, il n'y a pas, des jeunes trentenaires qui dirigent les frères musulmans.
Pas du tout.
Et
c'est un de leurs problèmes, c'est qu'en fait, la génération qui est arrivée après eux a dit, maintenant, on aimerait bien avoir le pouvoir. Eux, ils ont dit, Eux, c'est tous des étudiants qui viennent du Maghreb. Et la génération qui arrivait, c'était plutôt des enfants d'immigrés, plutôt de milieux populaires, qui notamment ne parlaient pas arabe. Ils leur ont dit, bah non, vous n'êtes pas légitime, vous ne parlez pas arabe. Vous ne connaissez pas assez bien les textes, la religion, etc. En fait, ils sont restés. Et aujourd'hui, franchement, ce qu'ils font, c'est surtout du business.
Mais business, ça veut dire sans connexion avec un idéal religieux et sans volonté de prosélytisme ?
Il y a toujours fondamentalement un idéal religieux, mais enfin pour ceux qui dirigent, en fait, ça s'est assez largement normalisé dans le capitalisme d'une certaine manière. D'ailleurs, les frères musulmans sont très libéraux, notamment dans les pays arabes qu'ils ont dirigés plus ou moins. Donc le sujet, c'est la nouvelle génération, et puis maintenant on est même à la génération d'après. Et franchement, s'il y a un risque, c'est moins les frères musulmans que les salafistes. Et puis maintenant, tout se passe sur les réseaux sociaux, parce qu'on parle de la jeunesse française, et la jeunesse française, elle n'est pas embrigadée dans des organisations verticales, elle écoute des influenceurs.
Et ils sont pas, on va y revenir, ils sont pas trop sur les réseaux sociaux.
Pas du tout.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Faut-il s'inquiéter de l'influence des frères musulmans en France ou bien faut-il s'inquiéter de l'instrumentalisation politique de ce dossier, de ce rapport dont on parle beaucoup ? Hakim El Karoui, essayiste, spécialiste de l'islam en France, est toujours avec nous pour comprendre qui sont déjà les frères musulmans. Est-ce qu'il y a un lien évident, obligatoire entre frères musulmans et djihadisme ?
Alors, en fait, quand on regarde, moi j'ai construit une base de données avec l'Institut Montaigne, 1200 djihadistes français, toute la décennie Syrie. Il n'y en a aucun qui était passé par les frères musulmans. Et tous quasiment par le salafisme, quand ils étaient passés par une variante extrémiste de l'islam. Après, Al-Qaïda, par exemple, a des racines idéologiques ou religieuses qui sont du côté des frères musulmans. Donc, il faut surtout pas sous-estimer le phénomène. Mais la génération actuelle, celle qui a posé problème, c'était pas celle des frères musulmans, c'était vraiment celle des salafistes. Le salafisme, ça vient d'Arabie Saoudite et c'est une autre histoire.
Pour revenir sur l'actualité de ce rapport, on en parlait un peu entre nous hors antenne, quand on regarde les médias, évidemment pas France Inter, mais quand on se contente des chaînes infos qu'on glane ici à droite et à gauche des infos, on a l'impression que ce rapport sur les frères musulmans est explosif, que les frères musulmans
alarmant.
Sont partout, et il faut s'alarmer de leur influence. Or, visiblement, pour ceux qui ont ne serait-ce que lu le rapport, l'influence des frères musulmans en France décline.
Elle décline et puis, en fait, il suffit de regarder les chiffres qui sont donnés dans le rapport, qui, d'ailleurs, à mon avis, sont légèrement sous-estimés. Ils disent qu'il y a 400 personnes actives. Allez, et peut-être 1000. Bon, 139 lieux de culte sur 2800 qui sont affiliés aux frères musulmans. 4200 élèves qui sont dans des structures scolaires qui sont gérées par des gens proches des frères musulmans. 4200 élèves, ça fait 0,2-0,3% des élèves français qui sont probablement de confession musulmane. Je pense qu'il y en a 1,5 million, 1,6 million. Donc, en fait, les chiffres sont très très faibles. Ils sont même plus capables d'organiser leur grand messe annuelle qui avait lieu au Bourget, qui drainait 100 000 personnes là où était venu Sarkozy. Donc, ils sont franchement en déclin. Et ce que documente le rapport, c'est pas leur puissance, c'est la décroissance de leur puissance. Après, il y a des vrais problèmes d'islamisme en France. En fait, eux, comme je vous l'ai dit, c'était plutôt il y a 15-20 ans. Maintenant, c'est vraiment la nouvelle génération. La nouvelle génération, elle veut pas d'hiérarchie, elle est complètement à plat.
Et ce qu'elle veut. Donc, il n'y a pas de référent, en fait, par exemple, en France?
Il y a des racines théologiques qui sont plutôt en Arabie Saoudite, qui sont pas celles des frères musulmans. Et puis, il y a des figures qui sont vraiment des influenceurs, qui sont en fait des gens qui font du développement personnel avec un soubassement religieux. Et qui disent à des jeunes français, qui ont souvent des questions d'identité, qui sont plus vraiment de la tradition, de la culture, d'ailleurs de la religion de leurs parents, et qui se sentent pas complètement français ou qui se sentent rejetés, ils leur disent vous êtes des musulmans et on va vous expliquer comment il faut l'être.
Mais sur TikTok, Instagram, sur tous les réseaux sociaux.
TikTok, Instagram, YouTube, le plus connu d'entre eux, il s'appelle Rachid Elgey, il a 2 millions, 2,5 millions de followers sur Facebook. C'est un des principaux influenceurs d'idées de France, pas les musulmans, de France.
Quentin.
Je rappelle que le rapport était à l'origine tenu secret. Il avait été commandé par Gérald Darmanin lorsqu'il était encore ministre de l'Intérieur à l'époque. Il a été rédigé par un préfet et un diplomate. Ça veut dire que la menace des frères musulmans est à la fois une question de sécurité intérieure et d'influence étrangère ?
Alors, il y a des influences étrangères liées aux frères musulmans très fortes, qui d'ailleurs ne sont pas dans le rapport, mais peut-être qu'on n'a pas eu le rapport dans son entier. C'est la Turquie. Les Turcs, ils sont extrêmement agressifs en France. Ça dépend un peu des moments, des périodes, des relations entre le président Macron et le président Erdogan. Eux, ils sont, c'est un mélange de frères musulmans et puis de nationalisme turc. Mais vraiment, la matrice d'Erdogan, il a été formé chez, disons, la filiale turque des frères musulmans. Et eux, ils sont très agressifs. D'abord, le gouvernement turc contrôle tous les imams qui sont en France. Il écrit les prêches à Ankara. Il y a une action sociale qui est très organisée. Et il y a un discours très clair sur le fait que les Turcs ne veulent pas que les Turcs s'intègrent ou s'assimilent. Erdogan avait dit, l'assimilation, c'est un crime contre l'humanité. Moi, j'ai travaillé sur l'intégration des enfants d'immigrés. On voit la dynamique pour tout le monde, sauf les filles turques. 7% des filles turques se marient hors de la communauté. Les maghrébines, deuxième génération, on est à 45%. Donc là, il y a vraiment des frères musulmans. Ensuite, il y a des pays arabes qui sont en guerre contre les frères musulmans, pas pour des raisons religieuses, mais parce que c'est juste leur opposition politique qui explique au gouvernement français que le gouvernement français est beaucoup trop naïf et qu'il faut donc les enfermer très rapidement.
Lui, il n'a pas d'avis concernant le rapport sur les frères musulmans. Pour lui, le danger, ce n'est pas l'entrisme, c'est les gens qui veulent supprimer l'argent liquide. Et c'est vrai que si jamais le cash devait disparaître, c'est tout le modèle économique basé sur l'opacité de Quentin qui viendrait à disparaître. Quentin, dont j'ai découvert effaré jeudi dernier, qu'il payait même la cantine de Radio France en pièces de monnaie. Ici, vous l'entendez même payer ses impôts. Ce type est dingue. Ça, oui, ça, c'est tout ça. Oui, vous payez beaucoup d'impôts.
Pendant une heure,
vous payez beaucoup d'impôts. Vous avez sauté plusieurs tranches fiscales depuis que je vous connais.
C'est pas vous à Fort Boyard, ça.
Pas du tout. D'accord. Oh, de beaux souvenirs. Vous avez raison de le rappeler. Revenons à votre mission du jour, Quentin. Faire réagir les passants à notre thème cet après-midi, les frères musulmans. C'est aux abords d'un lieu du 5e arrondissement de Paris que vous êtes allé faire votre micro-trottoir.
À deux pas du jardin des plantes, à l'angle de la tranquille rue d'Aubenton, s'élève la grande mosquée de Paris, monument de paix, de culture, de spiritualité partagée aussi. Sous ces arches blanches, entre les palmiers et les mosaïques, se croisent des visiteurs de toutes confessions, venus pour prier, flâner ou simplement partager un thé à la menthe dans le calme du patio. Non loin de l'entrée, je rencontre Laurie qui a terminé ses études de droit.
Les frères musulmans. On parle d'un mouvement politique qui est basé sur l'islam, qui est très critiqué en France. Je pense qu'en France, il y a un problème avec l'islam. Que les gens sont particulièrement méfiants avec l'islam, plus qu'avec les autres religions.
Je lui montre alors quelques articles que l'on trouve depuis une semaine sur le sujet des frères musulmans.
Il faut apprendre aux gens à se renseigner. Moi, j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps dans le monde diplo sur les frères musulmans, mais donc pas en France. Au Moyen-Orient, c'est quelque chose qui a permis à plein de gens de voter pour des représentants qui avaient des convictions socialistes. Et en France, c'est, j'ai l'impression qu'on l'entend pas du tout.
Je croise maintenant ce monsieur qui se dirige vers le bâtiment. On fait connaissance. Quel est votre prénom ?
Mohamed.
Vous avez quel âge ?
56.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?
Là, je vais faire la prière. Ici. Là.
Je lui fais lire le thème qu'on aborde aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen.
Ouais, les frères musulmans.
Vous en avez entendu parler, j'imagine ?
Ouais.
Quel regard vous portez sur cette actualité-là ?
Le regard, c'est qu'ils s'en prennent aux musulmans. C'est ça, le regard. Mais après, un jour, ça va se retourner contre vous. Les journalistes, ils s'en prennent aux musulmans, là, les médias. Là. Donc ça va se retourner contre vous.
Vous pensez qu'il y a un amalgame qui est fait ?
Ouais. Parce qu'ils connaissent rien du tout de l'islam. Rien. Zéro. Ils bombardent les musulmans avec la haine. Et on a vu les conséquences.
Inutile d'aller plus loin, tout le monde peut comprendre ce que Mohamed prédit et semble même justifier, donc je préfère arrêter là la conversation. Et ça tombe bien, puisque voilà Michel qui m'arrête et traverse la rue. Une auditrice peut-être.
Tout à fait, une fidèle. Tous les matins, dès que j'arrive chez moi, France Inter.
Elle découvre le thème de l'émission.
Oui, bien sûr, vous faites bien en parler, les frères musulmans. C'est un vrai souci. Moi, je suis israélienne. Et donc, je suis très au fait de ce qui se passe, de ce qu'ils veulent faire. Leur objectif est de coloniser, on peut dire, de façon insidieuse, toute l'Europe. Et pour ça, ils utilisent énormément de moyens que peu de gens connaissent.
Elle parle de façon insidieuse. Je lui parle du rapport dont on parle depuis plusieurs jours. Un rapport qui évoque notamment l'entrisme, ce mot compliqué. Je cite « cet islamisme à bas bruit qui tente d'infiltrer les associations sportives, culturelles, sociales ou autres ».
Ah, c'est un truc que j'ai vu, que j'ai constaté. Par contre, je suis pas d'accord avec Monsieur Retailleau. Ce serait dommage qu'il le récupère. Cependant, c'est quand même une vérité. Et moi, je l'ai vu beaucoup, pas tellement à Paris, mais plutôt en province. Oui, les clubs de foot, notamment, où on recrute certaines personnes d'une certaine façon. Tout est fait à dessein. à l'école aussi, où les parents se révoltent en interdisant certains sujets. Les professeurs, aujourd'hui, à l'école publique, ils ont peur. Donc, ils n'ont plus le droit d'aborder certains sujets, comme l'éducation sexuelle.
Ma dernière rencontre, c'est Fares. Il a 19 ans, un bonnet noir d'où s'échappent des cheveux bouclés. Que fait-il en ce moment ?
J'étudie les mathématiques et l'informatique dans le but d'être plus tard, si je peux, être ingénieur en informatique.
Et je lui fais lire notre sujet du jour.
Alors le thème c'est les frères musulmans, je suis pas très informé sur le sujet, mais en tout cas une chose est sûre c'est que jeune issu de banlieue et qui est aussi de confession musulmane, j'essaye de convertir personne vous voyez, je prône le vivre ensemble, j'essaye de vivre avec tout le monde que ce soit religieusement parlant ou même du point de vue de l'origine, moi je suis d'origine marocaine. Nationalité française, je suis né à Argenteuil en France, en banlieue, dans le 95, et je traîne avec n'importe quelle personne.
On parle quand même des polémiques récentes autour de ce rapport, lui réagit.
Ce que moi j'entends par islam et ce que tous les musulmans du monde entendent par islam, on est là pour propager l'islam à personne. Le prophète Mohamed, il a essayé de propager sa religion autant que Jésus a essayé de propager sa religion. En tout cas, je suis pas informé, j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais si les frères musulmans obligent ou essayent d'obliger des gens à se convertir à l'islam, c'est une mauvaise chose pour moi. Si ils essayent de faire en sorte que les gens comprennent notre religion pour que s'ils veulent les gens puissent se convertir, ça c'est autre chose. Moi je sais pas, j'ai pas lu le rapport, j'ai pas envie de dire de bêtises ou m'avancer sur le sujet.
Le vivre ensemble c'est pas une formule, c'est du concret, des échanges, parfois un thé aussi partagé comme à la Grande Mosquée de Paris. Frères musulmans, le terme inquiète et divise, mais dans la rue, au fil des discussions, une chose revient, qu'importe la religion, on reste des citoyens, des voisins, des frères un jour, qui sait.
Très émouvante. Chute, Quentin, oui. Comme d'habitude, humaniste. Hakim El-Khaoui, on vient d'entendre pas mal de réactions dans la rue. Politiquement, ils se situent où, les frères musulmans ? On va revenir sur la part des fantasmes qu'on a peut-être entendu aussi dans ces témoignages, mais ils ont quand même une ligne politique. On parlait de prosélytisme. Leur but, c'est quand même de propager l'islam, quand même, j'imagine.
Alors, c'est de propager l'islam, enfin, disons, leur version, leur vision de l'islam auprès des musulmans. Pas de convertir d'accord. toute la population française à l'islam et à l'islamisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on confond, on l'entendait avec votre le personne que vous avez rencontrée, que quand elle dit « j'ai vu du prosélytisme dans les clubs de foot », ça c'est juste, mais c'est pas forcément les frères musulmans.
Elle dit d'ailleurs plutôt en province qu'à Paris. C'est vrai ça ?
Non, c'est pas vrai particulièrement. En fait, c'est très simple. Il y a un certain nombre de quartiers où il y a une population immigrée importante, une population musulmane importante, et puis il y a des prosélytes, il y a des activistes qui disent tu dois te comporter comme ci, tu dois te comporter comme ça. Mais ils n'ont pas besoin de faire partie des frères musulmans. C'est évident que ça existe, c'est évident que c'est assez important, et c'est évident que comme c'est devenu une identité à part entière pour une partie de la jeunesse française, et que par ailleurs on leur explique que c'est pas des Français comme les autres, ben en fait tout ça crée de la polarisation. Et donc c'est pour ça que je m'inquiète moi de ces polémiques. Il faut laisser de la place à la nuance. Il faut pas rejeter tous les jeunes musulmans vers les frères musulmans, vers l'islamisme.
Oui, parce qu'on entendait Fares dans le micro-trottoir de Quentin qui disait « Oui, aujourd'hui, on avait l'impression qu'il devait se justifier aujourd'hui d'être musulman. »
Oui, ça c'est sûr. Après, il ne faut pas sous-estimer les problèmes. Il ne faut pas oublier qu'on a vécu plusieurs années de terrorisme qui sont traumatisants et que, d'une certaine manière, la France, la société française s'en est bien sortie. Enfin, au sens où il n'y a pas eu de volonté de représailles, de vengeance. Donc, raison garder.
On entend quand même Mohamed tenir des propos assez violents tout à l'heure. 10 ans après les attentats contre Charlie Hebdo, là, on est loin un peu du « je suis Charlie ».
Oui, non, mais il y a toutes les nuances de vert, d'une certaine manière. Donc, il faut les prendre en compte. Il faut pas considérer que c'est noir et blanc, qu'il y a les gentils, qu'il y a les méchants, etc. Bon. Et puis, surtout, il faut trouver des solutions. La solution qui consiste à dire, on va tout interdire, on va tout effacer, il faut supprimer. Bon, en fait, on se rend compte qu'on n'est plus dans le système de valeurs républicains que l'on prétend défendre. La laïcité, c'est pas l'absence des religions dans l'espace public, c'est la neutralité de l'État. Et c'est la liberté de conscience. L'État, il doit permettre aux uns et aux autres de croire et de ne pas croire. S'il y a des musulmans qui sont embêtés par d'autres musulmans parce qu'ils veulent leur imposer une règle de vie, ben là, il faut que l'État intervienne. Ça, c'est très important. Mais l'État n'a pas à dire comment, au nom d'une religion, on doit se vêtir ou pas se vêtir ou se comporter. Ça, c'est pas son rôle.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Ce n'est pas parce que le gai savoir est l'ADN de cette émission que nous nous défilons devant les sujets graves. Jamais, à Zoom Zoom Zen, nous n'avons reculé devant les sujets inflammables. Les ninjas, les beaufs ou la digiromance, nous les avons regardés droit dans les yeux. Alors ce n'est pas aujourd'hui, devant ce thème des frères musulmans, que nous allons reculer ou tenter de noyer le poisson. Non, le quiz portera bien sur les frères musulmans, ou en tout cas, les frères, ou à minima, les demi-frères. Enfin, vous verrez bien, jouons au Zoom Zoom Test. Oh, c'est merveilleux d'avoir des frères, de grandir au sein d'une famille nombreuse où on partage tous des frères qui, plus tard, seront autant d'épaules pour s'épancher dans les moments difficiles de la vie. Manon, évidemment, ne connaît pas ses joies. Bye. Elle a buté ses deux frères jumeaux in utero en les étranglant avec le cordon ombilical, faisant lors de l'accouchement une belle surprise à ses parents qui avaient vu des triplés à l'échographie. Et non, c'est que moi. C'est à partir de là que son papa, Thierry Mariani, avait vrillé politiquement.
Bref, ça n'est pas mon père.
Pour la première question de ce quiz sur les fratries marquantes de l'histoire ou de la fiction, je vous propose une énigme à la Père Fouras. Je suis le second d'une fratrie qui compte 5 frères et 3 sœurs. J'ai grandi dans le sud de la France et pourtant je ne suis pas Panisse, le deuxième fils illégitime de Cyril Lacarrière, qui finira au mieux adjoint au maire de Cavaillon. Ah oui. Moi, j'ai connu une carrière politique un peu plus impressionnante et comme je suis très famille, j'ai veillé à filer des jobs sympas à tous mes frères et sœurs que j'ai nommés soit roi, soit reine. Avouez que c'est mieux comme cadeau qu'une pochette française des jeux. Mais si j'ai pu les nommer rois et reines, c'est que j'étais moi-même plus qu'un roi.
J'étais Napoléon ?
J'étais Napoléon ! Oh oui, bravo. Quentin, quelle vivacité ! Voilà un homme qui avait le sens de la famille Napoléon.
Vraiment, j'allais dire une grosse bêtise.
Vous allez dire quoi, Manon ?
Non, rien.
Ah si, dites-le.
Vous
lirez
en rentaine.
Qu'on rit.
Une fois devenu empereur, il a bien mis la mif en plaçant ses frères et sœurs sur les trônes d'Espagne, de Hollande ou encore de Toscane. Un grand homme, voire pour Cyril Lacarrière, notre rédac-chef souverainiste, qui chaque année part se recueillir sur sa tombe à Sainte-Hélène, un saint homme. Mais attention, top.
Il n'est pas à Sainte-Hélène.
Direction
Sainte-Hélène. Il est aux Invalides.
Il est à Sainte-Hélène. Direction à présent les États-Unis. Alors, rencontre des rejetons d'un héros de la grande guerre américano-mexicaine du 19e siècle. On est en -254 avant l'enlèvement de Manon par le cartel de Sinaloa.
Et ce monsieur,
James quelque chose, je vous dis pas son nom parce que c'est l'enjeu de la question, ouais. Ce monsieur James, désormais rangé des fusils, se consacre à sa passion pour l'élevage. Des bovins, bien sûr, mais aussi des enfants. Il en aurait plus de 15, ce qui, d'après l'éminent anthropologue Benjamin Tranier, ferait de lui, je cite, un gros baiser. Et voilà, si je vous en parle, c'est que parmi ces 15 rejetons, certains vont devenir célèbres. Car notre James est le papa des frères Marx, qui perceront au cinéma en tant que Marx Brothers, des frères Dalton, qui perceront des coffres-forts en tant que frères Dalton, ou des sœurs Bronte, qui perceront dans la littérature en tant que sœurs Bronte.
C'est bien, on n'est pas d'accord.
Ouais, littérature, et vous, plus, vous, c'était les Marx Brothers, les Marx, ouais. Bien sûr. Et c'était évidemment la réponse B. Ah. Beauté,
les Dalton.
Beauté du gai savoir, les Dalton ont vraiment existé. Et je pense qu'apprendre ça au beau milieu d'une émission sur les frères musulmans, vous n'étiez pas préparé à une telle acquisition surprise de connaissances. Mais oui, les Dalton, c'était pas juste dans Lucky Luke, c'est un vrai quatuor de braqueurs qui a sévi dans l'ouest de l'Amérique vers 1890 et qui ont terminé sous les balles lors de leur dernier braquage. Ils s'appelaient les Dalton, oui, ils étaient Dalton, effectivement. Une mort atroce, hein, et pourtant moins douloureuse que ce qui les attendait un siècle plus tard, le film Les Dalton avec Elie Semoun, Sylvie Joly et Clovis Cornillac. C'est comme mourir une deuxième fois, déclara Avrel. Eux, ils sont moins nombreux que les Dalton, mais beaucoup plus costauds. 1m98, 2m2, 110 kilos chacun. 1,5 million de followers sur Insta, eux deux. Un doctorat en sciences sportives chacun. Les deux parlent 4 langues, cumulent 8 titres de champion du monde. L'un est devenu entrepreneur, l'autre maire d'une ville de 3,5 millions d'habitants, un an après sa retraite sportive. S'agit-il d'Igor et Grishka Bogdanov ?
Non.
De Piotr et Dimitri Kalachnikov ? Ou de Vladimir et Vitali Klitschko.
C.
B.
C.
Bonne réponse de notre invité, heureusement.
Bah, et de moi.
Oui, vous, c'était au hasard. Vous avez dit C en me regardant avec l'air hébété.
Comme pas du tout.
Non, je ne sais même pas si je peux compter
ce point. C'est un boxeur, le maire de Kiev.
Exactement. Deux héros des temps modernes. Vitali est maire de Kiev depuis 2014 et défend sa ville, arme à la main, avec son frérot depuis le début du conflit. À ne pas confondre avec les frères Bogdanov qui, eux, n'ont défendu que le fait de ne pas avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Ça n'a rien à voir. Et pour finir, que sera un quiz sur les frères musulmans sans un vrai faux sur les fratries célèbres du cinéma? La réponse, un autre jour. Top. Vrai ou faux, Marie-Kay et Ashley Olsen ont fait des apparitions dans les films de Sofia Coppola et Woody Allen.
Vrai. J'ai dit avant.
C'est faux, c'était Dakota et Elle Fanning. Vous les avez confondus. Vrai ou faux, les 5 frères Culkin sont tous acteurs et ont déjà joué ensemble.
Faux.
Vrai.
Donnez-moi le nom.
Des films
noms. Les 5.
Des 5.
Macaulay. Oh purée, comment il s'appelle celui de Succession, j'ai oublié.
Bon, Kieran, ça a été vite vu.
Kieran, oui, c'est vrai.
Rory
Kieran.
Christian, Shane Culkin sont tous acteurs. Les 5 se sont retrouvés pour prêter leur voix à une série animée que vous n'avez pas pu rater, The Second Best Hospital in the Galaxy, sur Prime Video. Vous l'avez vu, évidemment.
Ouais, non, mais ok.
Enfin, vrai ou faux, The Muslim Brothers est le nom d'un groupe de soul qui a sorti un album chez Motown en 1971.
C'est vrai, ça.
Vrai.
Non. Ça serait bien.
Bah, attendez.
Ça serait drôle.
Demandons quand même confirmation auprès de Philippe Manœuvre.
Ah, mais non, c'est du bullshit. Enfin, je peux vous parler du livre, du live de Led Zepp le 14 avril 67, parce que j'y étais, oui. Même si oui. J'ai pas bu de la badoie, mais oui, je m'en souviens,
top.
Mais
ça arrive au Drax. On n'a plus le temps, mais merci Philippe, et donc victoire de Quentin, lui, qui a réussi.
Bah, rien que pour l'imitation, il mérite.
Il avait oublié qu'il avait son imitation.
Par contre, faut me le dire un peu plus tôt.
Non,
mais c'était un peu un mix avec Nelson Montfort aussi. Hein.
Oui, bah ouais. Voilà, c'était Nelson...
Nelson Manœuvre.
Nelson Manœuvre. Qui sont les frères musulmans? Voilà, oui. Qui est beaucoup
sans
moins
transition.
Drôle. Sont-ils aujourd'hui un danger pour la société française? On pose toutes ces questions cet après-midi au spécialiste de l'islam en France, Hakim El Karoui. Hakim, j'aimerais revenir sur ce fameux rapport. On a l'impression, à vous écouter, que dans ce rapport, il mélange l'influence des frères musulmans et l'influence de l'islamisme en général dans la société. Il parle notamment, les auteurs de ce rapport, du danger d'un islamisme municipal, composite au plan idéologique, mais très militant, avec des effets croissants dans l'espace public et le jeu politique local. Ce danger, disent-ils, apparaît bien réel. Alors déjà, c'est quoi un islamisme municipal ?
Bon, ce seraient des listes communautaires qui seraient déposées par des candidats et qui diraient bah, « il n'y a que des musulmans à voter pour nous » parce que... Voilà. Bon, la vérité, c'est qu'en vrai, il n'y en a jamais eu. Il y en a eu une ou deux qui ont fait, je sais pas, moins de 1% des voix. Par contre, ce qui peut se passer, c'est pas l'islamisme municipal, mais ça arrive tout le temps, c'est le clientélisme municipal. Et donc, quand il y a des villes avec des fortes communautés musulmanes, le maire de droite ou de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, va voir l'imam de la mosquée ou va voir des figures de la communautaire en leur disant, ben, votez pour moi et qu'est-ce que vous voulez. Donc ça, ça arrive, évidemment. Ça arrive avec d'autres. Ça arrive avec les pêcheurs, ça arrive avec les agriculteurs. Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas avec les musulmans. Est-ce que c'est organisé par les frères musulmans? Franchement, là aussi, je crois pas. Probablement qu'ils ont essayé de le faire quand ils étaient puissants. Mais maintenant, il y a plein de gens qui sont des freeriders, d'une certaine manière, des entrepreneurs religieux qui font ça et qui essayent de s'imposer.
Bruno Retailleau a tiré rapidement quelques conclusions du rapport qu'on a évoqué. Il parle, lui, d'une menace sur la cohésion nationale, voire de submersion de la part de la mouvance frériste. Est-ce que c'est ce que dit le rapport ? C'est 75 pages.
Alors, je vais annoncer une bonne nouvelle aux auditeurs de France Inter. Les frères musulmans ne veulent pas convertir tous les Français à la charia. Voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ils seront contents d'avoir écouté l'émission. Qu'ils aient, pour certains d'entre eux, eu l'ambition de convertir une partie des quelques millions de musulmans à leur vision de l'islam, ça c'est probablement juste. Est-ce qu'ils sont en train de le faire? La réponse est plutôt non. Je parle des frères musulmans. Des salafistes ou des influenceurs islamistes, est-ce qu'ils veulent le faire? La réponse est clairement oui. Pas toute la population française, mais leur cible, ce sont les musulmans ou supposés-tels.
Il reste des endroits dans le monde où ils ont une influence, les frères musulmans?
Oui, enfin... Elle est en baisse depuis les printemps arabes. Pour une raison simple, c'est qu'ils sont arrivés au pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir d'une façon ou d'une autre en Égypte. Ils ont eu vraiment le pouvoir, même si l'armée était très puissante. En Libye, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Jordanie. Et puis, ils ont eu un rôle très important pour construire tous les États du Golfe. Mais ils ont tellement mal géré. Je parle de les États du Golfe, c'était pas le printemps arabe. Hein. C'était vraiment les pays du nord de l'Afrique. Ils ont tellement mal géré qu'en fait, leur situation a décliné, un peu comme les communistes en Europe de l'Ouest, par exemple.
Vous nous disiez aussi, Antenne, quelque chose d'intéressant. Le Hamas, c'est les frères musulmans?
Ah, le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Avec tous les moyens d'action des frères musulmans, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par l'action sociale. Ils étaient très opposés à l'OLP. Et d'ailleurs, une partie des Israéliens, enfin du service de sécurité israélien, avait joué le Hamas contre l'OLP. Je parle, évidemment, avant le 7 octobre, et dans les années 80-90. Parce qu'ils étaient contre la paix.
Pour revenir à la France, il y a quand même quelque chose que je m'explique pas. J'ai beau observer la vie politique française depuis longtemps maintenant. Comment Bruno Retailleau peut être aussi alarmiste alors que le rapport lui-même contredit Retailleau puisqu'il dit qu'aucun document récent ne démontre la volonté d'établir, comme vous le disiez, un État islamique en France ou d'y faire appliquer la charia. Comment on peut détourner tant que ça ce qu'il y a dans le rapport, visiblement?
Je pense qu'il faut espérer que pas grand monde le lise. Et puis, malheureusement, c'est politiquement assez rentable de faire peur avec les musulmans. Je pense que la réponse, il faut, c'est les musulmans aussi qui l'ont. En fait, il n'y a aucune organisation crédible, nationale, qui a voix au chapitre. Il n'y a personne qui parle pour dire, bah, écoutez, on a regardé, c'est vrai ou c'est faux. Et puis, il faut aussi que des organisations musulmanes luttent contre l'extrémisme musulman, qui existe, qui est puissant.
Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Vous trouvez qu'en France, les organisations musulmanes n'en font pas assez?
Pour une raison simple, c'est qu'il n'y en a pas non plus. Il n'y a pas de grand complot islamiste, etc. C'est, encore une fois, hein, c'est de bas en haut. Enfin, il y a les influenceurs. Mais il n'y a pas non plus d'organisation qui essaye, en gros, de faire le ménage chez des gens qui peuvent être dangereux au nom de l'islam.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. Manon, la personne à suivre, vous aviez très envie de nous parler de Tariq Ramadan.
J'ai esquivé.
Mais finalement, non.
Oui, je vous présente Léna Mafouf. Elle a 27 ans, elle est française. Et c'est aujourd'hui l'influenceuse, on peut le dire, au moins l'une des influenceuses les plus célèbres de France. Elle se fait connaître dans les années 2010 grâce à sa chaîne de YouTube Léna Situation, où elle partage notamment des vlogs très bien montés, plein d'autodérision avec ses potes, ces fameux vlogs d'août. Très vite, elle devient aussi un phénomène sur Instagram et sur TikTok, car Léna est une bosseuse, elle en veut toujours plus, d'ailleurs c'est sa devise, plus égale plus. Alors même qu'elle est au sommet sur les réseaux avec des millions d'abonnés, elle se lance dans plusieurs aventures, elle écrit un livre, elle lance sa marque de vêtements, elle fréquente les Fashion Week, plus rien n'arrête Léna Mafouf. Mais Léna, ce n'est pas juste une success story d'influence, c'est aussi une jeune femme maghrébine médiatisée dans un monde encore très blanc et très élitiste, et ça en dérange certains. La jeune femme est souvent la cible de vagues de cyberharcèlement en sur les réseaux sociaux. Trop arabe, ses cheveux trop crépus, ce n'est pas beau, pourquoi elle parle comme ça, est-ce qu'elle est pratiquante ou pas? Et puis le sujet qui fait le plus parler ses harceleurs, ses vêtements. À chacune de ses apparitions publiques, ou presque, ses looks font l'objet de critiques. Une robe trop décolletée pour ses petits seins ne plaît pas, elle est trop grosse pour sa tenue à Cannes, etc, etc, je vous en passe. Dernière polémique en date, sa robe lors d'une soirée au Festival de Cannes, une robe longue et blanche signée The Row, la marque de luxe des sœurs Olsen. Léna porte aussi un foulard dans les cheveux. Ni une ni deux, une cadre du Parti Renaissance l'accuse d'entrisme sur X. La journaliste ex-membre du CSA, Christine Kelly, l'accuse de s'habiller à la mode des frères musulmans sur CNews. Heureusement, ces réactions ont provoqué un véritable tollé médiatique. Léna Mafouf a de son côté préféré ironiser en disant dans une story qu'elle avait appris que, selon certains, elle avait rejoint les frères musulmans, et elle avait évidemment une pensée pour ses mères qui ont marché pour que nous puissions choisir nos vêtements. La cadre du Parti Renaissance s'est excusée, pas Christine Kelly, sans surprise. Léna Mafouf est victime de racisme ordinaire, il faut dire les mots. Quelques jours avant, elle avait d'ailleurs parlé de sa position de femme maghrébine au micro d'Élise Lucet.
Ok, je suis une femme maghrébine, mais je suis une version maghrébine acceptée par la publicité en France. Je pense vraiment que si j'étais une femme voilée, j'aurais pas du tout les mêmes opportunités que j'ai aujourd'hui.
Je pense que beaucoup auraient à apprendre de la lucidité et de la force d'esprit de Léna Mafouf, qui a même pas 30 ans, porte un discours beaucoup plus clair et politique que d'autres.
Merci beaucoup Manon. Vous voyez ce t-shirt blanc tout simple?
Oui.
Ben ce n'est pas un The Row.
Oui, non,
c'est un
pas.
Uniqlo, malheureusement. Malheureusement, effectivement.
Bien coupé quand même.
Hakim El Khaoui, cette anecdote sur Léna Situation, Léna Mafouf, il en dit long. On mélange tout aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a certains journalistes, entre guillemets, qui font des raccourcis absolument risibles.
Oui, d'ailleurs, moi-même, ce week-end, j'ai eu la joie de me faire accuser d'entrisme, et parce que j'étais pas clair, parce que j'expliquais ce que je vous explique, c'est-à-dire que dans le rapport, j'ai pas trouvé la démonstration de l'influence et de la volonté de convertir tous les Français à la charia par les frères musulmans. Donc, dans ces cas-là, vous êtes un frère musulman caché. C'est malheureux parce que, en fait, ce que ça produit, c'est de la radicalisation des deux côtés. Ouais. On voit ceux qui portent à l'extrême droite ce type de discours. Mais en fait, ils renvoient vers leur identité en essayant de leur dire vous n'avez pas le choix. En fait, le message c'est quoi? C'est vous n'êtes pas des vrais Français. Vous n'êtes pas des Français à part entière. Et ça, c'est formidable pour qui? Pour les frères musulmans.
Et,
et pour les salafistes et pour les identitaires de tout poil.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
S'efforcer de présenter un sujet aussi sensible que celui des frères musulmans pendant près d'une heure, réussir, je crois, à exposer les faits calmement, en séparant bien ce qui relève de l'entrisme et de l'exploitation politique de l'islamophobie, prendre des pincettes, tout ça pour finir l'émission en laissant le dernier mot à un type élevé dans un institut catholique rigoriste de Lourdes, qui aujourd'hui encore appartient au groupe Facebook Les Amis de Charles Martel. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est le conducteur. Bonjour Pierre Courade.
C'est vous qui animez toujours notre événement de fin d'année, Mathieu, à Poitiers.
Oh, du quelle horreur, jamais de la vie. Tout ce qu'on s'est dit sur les frères musulmans et pas ce que vous pensez des frères musulmans, la nuance est importante, Pierre, résumé en une minute chrono.
Et on a parlé des frères musulmans cet après-midi à la faveur du rapport discuté la semaine dernière en Conseil de défense et largement commenté par la classe politique, plus que par les universitaires ou les personnes qui s'y connaissent vraiment, ce qui n'est généralement pas bon signe. Heureusement, avec nous aujourd'hui, nous avions Hakim Al-Karoui, spécialiste de l'islam de France, qui a lui-même été auditionné pour l'élaboration de ce rapport. Il nous a expliqué que les frères musulmans étaient aujourd'hui un groupe de vieux notables moins puissants qu'il y a 20 ans, quand ils s'appelait encore UOIF, une organisation qui n'a plus grand-chose à voir avec les frères musulmans venus d'Égypte, avec une hiérarchie et un culte du chef, un vrai groupe politique et religieux qui a commencé dans les œuvres sociales et dont le but est de propager leur vision de l'islam, mais pas de convertir. C'est important de le préciser, hein, les frères musulmans ne souhaitent pas imposer la charia en France. D'ailleurs, chez nous, ils ne sont guère plus que 400, désormais concurrencés par les nouvelles générations influencées par les salafistes, mais qui peuvent encore jouer le rôle de courroie de transmission pour le régime turc, notamment en France. C'est pour cette raison que notre invité estime qu'il faut surveiller ce groupe, mais il faut aussi raison garder, car pour Hakim Al-Karoui, le vrai danger vient surtout des prédicateurs 2.0, des prêcheurs du web qui racontent n'importe quoi sur l'islam à des jeunes qui se sentent rejetés par la société. Et sur ce sujet, rien ne ressort des prises de position politiques de ces derniers jours, et ça aussi, c'est inquiétant.
Merci Pierre, j'ai comme l'étrange sensation que vous n'avez pas dit trop de conneries aujourd'hui. C'est assez important, assez rare pour être souligné. Merci Pierre. Elle est ravie de s'exprimer sur le sujet, elle dont la finesse de l'analyse n'a d'égal que la férocité de la plume. Camille Lorente, c'est à vous.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma chronique sur l'islam politique. Marchons tous ensemble sur les chemins de la laïcité et du fun. Allez, tous avec moi. Jeunes frères musulmans, suis avec nous le mouvement. Même si tu t'appelles Christian, tu peux devenir musulman. Et oui, je l'ai apprise il y a 20 ans en colo, donc je suis qualifiée. Voilà, je vous chante pas la suite, hein. C'est la shahada, la profession de foi musulmane, ce qui ferait que je me convertisse tirer à l'islam en direct, et je pense que c'est encore trop tôt dans ma carrière pour percer. Mais merci en tout cas de m'avoir donné l'opportunité de passer 3 jours à googler frères musulmans dans tous les sens, bad buzz ou fichier S, après tout, c'est Dieu qui donne. Alors notre pays avait-il besoin d'un rapport hautement médiatisé sur les frères musulmans? Bah oui, enfin on venait quand même d'apprendre qu'il y a du caca dans l'eau, donc ça fait du bien de se changer les idées, surtout avec des thèmes inédits comme le voile ou l'immigration. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, moi ça m'avait manqué. Puis la menace est réelle, hein. Les frères mus, ils sont contre la constitutionnalisation de l'IVG, contre l'interdiction des thérapies de conversion. Ah ben, hé, comme Retailleau en fait. Mais alors, vous voyez, vous êtes d'accord, allez, faites-vous des petits bisous là. Oh là là, pour cette chronique, j'ai dû regarder ce qui se passe à la télé. Ça faisait très longtemps et c'est officiel, je suis dépassée par ce monde. Oh là, j'ai appris, alors rien à voir, hein, mais vous savez qu'il y a des mecs qui payent d'autres mecs pour faire des footings à leur place sur Strava afin de leur fournir un alibi pour tromper leur femme. Oh là là, ça va pas fort hein, chez les blancs hétéros. Non mais l'absurdité de ce monde n'a plus aucune limite. J'ai zappé, c'était le dôme d'or de Trump. Et moi j'étais là, elle me ferait pas avoir, c'est de l'IA ça. Après j'ai appris que c'était un vrai projet que Reagan avait déjà lancé il y a 40 ans. Et vous savez, ce qui a aussi 40 ans, c'est l'idée selon laquelle l'islam est une religion conquérante qui menace de s'imposer à tous les Français. Mot pour mot, le discours que tenait Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Alors petite innovation quand même, maintenant si vous osez dire, oui, parler de l'islam comme un danger chaque jour dans les médias, peut-être c'est islamophobe, et ben nouveauté, maintenant l'islamophobe vous contre-islamophobise en vous disant quoi ? Non, nous on parlait juste des frères musulmans, hein, c'est vous qui faites des amalgames, c'est vous les islamophobes selon la fameuse règle scientifique de c'est celui qui dit qui est. Alors pourquoi Bruno Retailleau fait un max de drama autour de ce rapport ? Est-ce que c'est pour préparer le terrain des municipales, de la présidentielle ? Non, moi j'ai ma théorie. Il a trompé sa femme, elle l'a grillé. Et il peut pas faire courir un mec sur Strava à sa place, parce que c'est son truc à Bruno, c'est l'équitation, donc faut trouver un mec qui a un poney, enfin c'est hyper compliqué. Donc Isabelle, elle est pas contente, lui il est coincé, paf, il sort sa dernière carte. Mais bébé, attends, il y a plus grave, bientôt il y a des gens qui vont t'obliger à porter le voile. Hop, diversion. Isa est terrifiée, elle oublie de divorcer, victoire de Bruno par KO. À entretenir la peur de l'autre, c'est vraiment notre sport national, quoi. Les champions du 110 mètres haine, qu'est-ce qu'on est bon là-dedans, putain. Alors moi j'ai pas de solution toute faite, mais il paraît que le contraire de la peur, c'est la foi. Donc les racistos, peut-être trouvez-vous une spiritualité, ça vous occupera, puis ça vous détendra les organes. Et puis même si vous vous appelez Christian, vous pouvez devenir musulman. C'est quand même des bonnes nouvelles, ça.
Que des bonnes nouvelles, finalement, dans cette chronique. Merci Camille Lorente, merci de vous être prêtée à l'exercice. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci Hakim El-Karoui de nous avoir éclairé sur ce phénomène des frères musulmans. Pour aller plus loin, je rappelle l'un de vos ouvrages, La fabrique de l'islamisme, ou encore L'islam, une religion française, chez Gallimard. En deux mots, pourquoi l'islam, une religion française ?
Parce que, alors je ne sais pas si ça va vous détendre, je pense que c'est la première religion pratiquée de France aujourd'hui. Et donc, c'est devenu une religion française.
Cyril ?
Je voulais vous poser une question en plus. Est-ce que ce qu'on vit depuis une semaine, ce n'est pas aussi un révélateur de la puissance aujourd'hui des médias ultra-conservateurs, voire d'extrême droite ?
Oh oui, mais
qui donne une caisse de résonance à ce rapport.
Ça fait pas une semaine qu'on le vit, donc oui, ce type de sujet, évidemment, ils adorent ça. Encore une fois, ce qui me frappe, moi, c'est à quel point il n'y a jamais aucune solution qui ressort. Il y a toujours des inquiétudes. Puis la question, c'est bon, ben maintenant, on fait quoi ? Parce que c'est quand même pas la première fois qu'on dit qu'il y a des islamistes en France, frères musulmans ou pas. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les gars ?
Merci encore, Hakim El-Karoui, de nous avoir expliqué les frères musulmans.
Zoom Zoom Zen.